Bonsoir et bienvenue dans le podcast des écrans terribles à la Berlinale. Nous sommes jour 7. 7, c'est un chiffre fatidique et d'ailleurs c'est un jour fatidique. Pour cette raison, nous allons faire un podcast extrêmement court qui va se résumer à cette conversation dans un café. Enfin, on n'est pas dans un café, on est dans un merveilleux lieu à donuts dont j'ai oublié le nom et dont que Marine va vous révéler dans un instant. Je suis effectivement entourée de Marine.
Coucou.
Et Carole.
Salut.
Moi c'est Yael et on a vu deux films, on les a pas aimés et en fait on en a marre de vous polluer avec la toxicité de notre découragement et de notre énervement avec les films. On va faire très très court parce qu'on veut pas que vous perdiez du temps à entendre des gens dire du mal de quelque chose. À un moment faut aussi parler des trucs sympas et de passer notre énergie avec des trucs sympas. On a déjà assez perdu de temps à voir ces films, donc je dirais juste qu'on a vu deux films, ce sont Elisa et Marcella et Synonyme, et je vais proposer à l'une de vous deux de dire un mot sur l'un et à l'autre de dire un mot sur l'autre, et ensuite on parle un peu quoi. Elisa et Marcella, qui prend?
Alors, là, c'est ce côté-là ou c'est l'autre côté? Excuse-moi, c'est ce côté-là. Ok, excusez-moi, c'est un problème de d'organisation. Elisa et Marcella. Désolée, il faut que je retourne, en fait, parle parce que je suis dans le film, le dernier film. J'arrive pas à penser au film d'avant.
Alors, Elisa et Marcella, alors, déjà pour dire quelques mots de résumé, c'est l'histoire d'un amour lesbien interdit au début du siècle. C'est filmé dans un noir et blanc moche. Je suis un peu dépitée parce que j'ai vraiment l'impression que je me sens blessée en fait aujourd'hui. Je me sens vraiment. J'ai l'impression que la Berlinale veut nous faire du mal dans ses propositions de cinéma. Ça, on avait pourtant commencé avec deux journées où on se posait des questions, il y avait des choses qui nous dérangeaient dans certains films, mais voilà, on avait des propositions intéressantes, réussies, ratées, des sujets, enfin des vrais sujets. Des interrogations, et puis plus les jours passent, plus on voit des films qui sont vides de sens, qui sont méprisants, qui pensent pas, quoi. Et là, les deux films d'aujourd'hui, en fait, ce qui me fait vraiment profondément chier, c'est que à chaque fois, on a deux sujets, deux histoires intéressantes qui méritent d'être racontées, et qui sont racontées n'importe comment, et qui sont finalement pas racontées, en fait. Il y a une forme de dilution du scénario. Qui donne l'impression d'être confronté à des gens inintelligents dans leur acte de création et méprisants dans leur rapport au public.
Et à leur personnage.
Alors, je pense que ce qui m'a le plus gonflé dans Elisa et Marcella ce matin, c'est la peinture de l'amour lesbien. J'ai l'impression de voir des clichés d'un téléfilm érotique d'M6 dans les années 90. Mais en noir et blanc. Les personnages ne se parlent pas, ne communiquent pas. On est sur une histoire d'une passion secrète qui mérite justement d'être face à deux personnages qui sont placés dans une position d'être très fusionnelle pour lutter contre toute l'oppression qu'elles subissent autour d'elles. Et on est dans un truc où on a deux femmes qui ne se parlent pas. Ça joue mal, ça joue faux même parfois. Soit les personnages sont éminemment gentils, les personnages qu'elle rencontre, soit ils sont éminemment méchants. Ça pourrait être, on en parlait ce matin, on se demandait, tiens, est-ce que ça pourrait pas être... Enfin, on aurait aimé, c'est pas, on savait très bien que ce n'était pas, mais on aurait aimé que ce soit peut-être... Ça puisse être, pardon, la construction d'une focalisation subjective. Le fait que ces deux très jeunes femmes, enfin, censées être des très jeunes femmes, perçoivent le monde de cette façon-là et ont une vision manichéenne des personnes qu'elles rencontrent sur leur route. Or, il y a une espèce d'absence de point de vue permanent qui est très embêtante. Donc, un très beau sujet qui s'appuie sur une histoire réelle. On a quasiment eu que des films sur des faits réels ou sur des romans. Et là, ça se casse la gueule de façon magnifique.
Ouais, c'est le degré zéro de la projection de ce que c'est qu'une histoire d'amour lesbienne. Ça va que dans ce qu'on imaginerait sans connaître le sujet et jamais dans toute la matière qu'il y a entre tous ces moments clichés. Mais surtout, c'est dénué de réelle sensualité, de réelle émotion. L'image est noir et blanc, mais elle est hyper lisse, donc ça fait image de publicité. Et du coup, c'est d'une. Et puis il y a des plans ridicules, la bouteille qui tombe et on voit l'eau se verser sur le sol, enfin ce genre de truc horrible.
Les trucs. C'est là quand le. Quand il y a une scène qui se termine, le. Ça devient noir et ça se. Comment t'appelles ça, tu sais, ça se...
L'objectif se rétrécit, en fait, un peu comme dans les vieux films de.
Les films muets, oui, justement, où ça se rétrécit, ça s'arrête sur cette image. Tu. Ça vient nulle part en fait.
Bah, le truc c'est qu'un truc comme ça, un truc avec l'effet, tu vois, c'est un peu comme dans Star Wars où il y a l'espèce de truc où il change de plan avec un truc hyper kitsch. Tout est possible. Le problème c'est pas ça. Le problème c'est que par rapport au vide intersidéral du reste du film, et en plus à la fin dans le générique, ils ont passé une série de photos de femmes. Donc en fait, en plus, c'est une histoire malheureuse. C'est pas une histoire malheureuse en fait, c'est un amour secret, mais c'est une histoire vraie. Et c'est des nanas qui ont fini par réussir à vivre ensemble toute leur vie en Argentine. Donc on est sur quelque chose en plus qui crée de l'espoir. Et il y a un truc aussi très intéressant, c'est que c'est une histoire qui a fait la une des journaux en 1901, de deux femmes qui s'étaient mariées avec l'une se faisant passer pour un homme. On est sur quelque chose d'hyper intéressant, de même passionnant, d'historique. Et en gros, j'avais l'impression que c'était des personnages, des femmes d'aujourd'hui, qui s'étaient retrouvées un peu comme... Lost in Austin, la mini-série où t'as une femme d'aujourd'hui qui se retrouve dans le monde de Jane Austen et qui sait pas du tout comment se comporter, comment parler, comment s'habiller, elle fait que des gaffes et tout. Ben là c'est pareil, on dirait que ces nanas n'ont pas grandi dans ce monde et que du coup elles sont un peu méfiantes, mais en même temps elles réfléchissent pas à comment elles... Et je pense que des vraies nanas, même si ça a fini par se savoir qu'elles vivaient ensemble, que c'est sûrement pas passé comme c'est dans le film, quoi. C'est juste je voulais donner la parole à Marine. Et ensuite, Carole a quelque chose à dire. Donc, vas-y, Carole.
Je voulais revenir sur un personnage masculin, puisqu'il y a une des deux nanas qui est convoitée par un mec du village. Donc, une tension qui, au départ, est intéressante, quoi. Lui remarque quelque chose entre ces deux femmes et, en même temps, on désire une des deux. Enfin, il a clairement envie de la dominer, quoi, surtout. La façon dont ça a amené, c'est hyper maladroit, parce qu'à une fête de village, il les observe, il les suit quand elles s'écartent de la foule, et on voit les deux nanas danser toutes les deux, se prendre dans les bras, se tenir la main, enfin des gestes qui sont complètement anodins en fait entre deux filles. Donc le fait qu'il puisse se douter de quelque chose dans la façon dont c'est montré, c'est pas possible, parce que l'affection et les contacts physiques entre les femmes, c'est quelque chose de très naturel et à travers les âges. Donc de pouvoir que ce type-là, dans le contexte dans lequel il vit, identifie ces gestes-là comme étant des gestes lesbiens, ça me paraît pas possible en fait. Pas de la façon dont c'est filmé, dont c'est montré, en l'espace de 10 secondes. Il n'y a pas de gradation, il n'y a pas de subtilité, et ça c'est le problème du financement de fierté. Donc après, ce personnage-là est instrumentalisé dans le projet des femmes, mais dont elle ne parle jamais, puisque une des deux va se faire mettre en cloque par lui... Voire légitimer, on suppose, elle tombe enceinte, et dans une des scènes d'avant, on l'a vu demander à ce mec-là de venir chez elle à un moment donné où elle est seule et où, ça, et où son amante est partie pour revenir sous l'apparence après d'un homme. Donc c'est après coup qu'on comprend qu'elles ont échafaudé un plan, mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait partie du plan ou pas. Est-ce qu'elle l'a attiré chez elle pour le niquer, essayer de tomber enceinte. La façon dont c'est montré, par miracle, ça on semblerait que ça soit arrivé, mais on devine entre les lignes, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu de la violence, au contraire, est-ce qu'elle s'est fait violer, on n'en sait rien non plus, parce que ça pourrait être ça, l'histoire réelle. On n'est pas encore allé chercher tous les détails du fait historique, mais peut-être que c'est ça, peut-être que quoi qu'il en soit, il y a un trauma chez cette jeune fille, et qui n'est pas vraiment montré. C'est après la naissance de l'enfant, on la sent complètement déconnectée du réel et dans un état presque catatonique à certains moments. Mais vu qu'elle exprime déjà pas grand-chose depuis le début, c'est un peu difficile d'évaluer ça. Et il y a quand même plein de moments très traumatiques qui sont pas du tout traités, quoi. Et effectivement, on voit pas l'espoir qu'on devrait avoir dans ce film à la fin.
Je t'interromps, Carole, parce que je voulais vraiment qu'on passe pas trop de temps à dire du mal des films. Marine ?
Moi, par rapport à ce film-là, je viens de me étrangler avec une cacahuète, pas une cacahuète, une noisette, autant pour moi. Donc non, moi non plus, je ne l'ai pas aimé du tout, hein, c'est clair. Ça met une image toute cette image justement de l'amour lesbien, vu par les mecs, donc où t'as l'impression que toutes ces scènes sont faites pour le plaisir des hommes en fait. Donc,
c'est une femme réalisatrice.
Et c'est une femme réalisatrice. On s'est demandé d'ailleurs, c'est Isabelle Coixet, donc qui a fait quand même personnellement. Enfin, moi j'ai vu un film, au moins un film d'elle qui était My Life Without Me. Donc je traduis peut-être par ma vie sans moi en français, avec Sarah Paulet, Mark Ruffalo et notre cher et tendre celui que je dans Felicity, j'ai oublié.
Scott Foley.
Scott Speedman, oui.
Ah. Scott aussi, non ?
Je crois, je sais plus.
Parce que Scott Foley.
L'autre, quoi. Ben de Felicity, on va dire. Et le film est très personnel, il y a beaucoup de tendresse et j'ai un très bon souvenir du film. Donc quand je suis avant d'aller voir le film, je me suis dit genre, bon, ok, si Isabelle Coixet, il y a peut-être une chance. J'ai pas vu ses autres films ou quoi que ce soit. Elle a fait aussi License to Drive ou des trucs comme ça, enfin que j'ai pas vu, mais qui avait l'air de films assez fun. Hein. Et là, c'est tout le contraire, quoi. Et je vais rajouter
mariée,
un autre truc.
Elle est mariée.
Ok. Et le truc, je vais redire un truc. She should know better. Genre, elle a fait plein de films. Et le truc, c'est que l'histoire, effectivement, je trouve que l'histoire est super intéressante. Il y a plein de choses à faire de ça. Et elle aurait pu faire un film magnifique avec ça, quoi. Et elle a.
Et je précise, le problème n'est pas. Quand je dis elle est pas lesbienne, elle est mariée avec un homme, ça n'est pas disqualifiant, de fait. C'est juste qu'en regardant le film, je me suis tout de suite posé la question, parce que justement, il y avait une espèce d'absurdité dans le regard. Et je disais à Carole tout à l'heure deux anecdotes. Une, j'ai fait deux conventions avec des actrices de The L Word, hétérosexuelles, qui parlaient de toutes les conversations qu'elles ont eues avec la créatrice et toutes les autres actrices qui étaient lesbiennes et tous les membres de l'équipe qui étaient lesbiennes pour parler de comment représenter la sexualité pour ne pas être dans un fantasme et dans une vision et dans une projection hétérosexuelle masculine, mais pour montrer quelque chose d'authentique et de réel. Et d'ailleurs, c'est une série qui, je pense, la plupart des gens, notamment des femmes qui ont vu cette série, la trouvent très sensuelle et très excitante, qu'elle soit hétérosexuelle ou pas. Et surtout, l'exemple qui me vient à l'esprit, bien entendu, c'est Call Me By Your Name. Parce que Call Me By Your Name, c'était il y a un an et quelques seulement, et que ni le réalisateur ni les acteurs ne sont homosexuels. Ils n'ont eu aucun mal à nous faire complètement plonger dans quelque chose d'extrêmement sensuel et qui avait l'air très vrai. Alors après, il y a plein de gens dans la communauté homosexuelle qui n'ont pas aimé ce film pour plein de raisons, mais je ne pense pas pour la dépiction de la sensualité ou de la sexualité. Et il y a quelque chose justement sur les premiers émois, sur les premiers ressentis, c'est quelque chose, c'est à la fois c'est incroyable, ça a l'air incroyablement authentique et en même temps c'est totalement universel du coup, parce que ça ne parle pas spécifiquement d'homosexualité, ça parle de sexualité, mais de façon logique, vu que ce sont deux hommes à cet endroit-là, à ce moment-là, quoi. Entre eux, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils auraient dû se faire chasser du village par des fourches à l'époque, mais bon, ça c'était un autre débat. Et donc la question de la sexualité de la réalisatrice entre juste en ligne de compte, parce qu'elle n'a pas clairement pas fait ce qu'il fallait pour... Enfin, je veux dire, à un moment, elle s'embrasse, elle passe leur temps à montrer leur sein, à s'embrasser. Il y a tout un truc avec une pieuvre et un truc avec du lait, on dirait effectivement, un softcore porn sur deux filles lesbiennes, mais qui ne sont pas vraiment deux actrices qui ont fait ça pour un réalisateur, quoi. C'est vraiment... Bon, du coup, voilà, on est extrêmement déçus, extrêmement pas contentes. Et ensuite, on est allé voir Synonyme d'un réalisateur israélien qui s'appelle...
Navad Lapid.
Et j'ai eu le bonheur et le découvrir dès les premières images que clairement, ça allait être tout en français, tout en France. Yay! J'aime mon pays, mais... Enfin, voilà, les gens qui aiment... Il y a plusieurs types de réalisateurs qui aiment la France et qui ont envie de faire des choses en France. Et il y a ceux, effectivement, qui sont inspirés par les mêmes parties de la France que moi m'inspire. Et il y a ceux qui sont inspirés par tout ce qui m'énerve. Et j'avoue que j'avais peur et j'ai eu raison d'avoir peur. Je pense que c'est la pire expérience que j'ai eue du festival. Je ne pensais pas qu'on pourrait avoir pire que Fatih Akin. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage, il n'y a rien. Je vous laisse quand même parler de ce qu'il aurait pu y avoir ou de ce que vous auriez espéré qu'il y ait. Ou... Voilà, Marine.
Alors, ce film, il n'y a pas moyen de résumer l'histoire. C'est un Israélien qui arrive en France, qui se retrouve, on ne sait comment, vraiment, dans un appartement vide, avec un sac à dos, un appartement vide dans des beaux quartiers, dans un bel immeuble, dans un immense appartement où il n'y a rien du tout dedans, à part une baignoire et de l'eau. Il ouvre toutes les fenêtres. C'est la nuit. Il est dans un sac de couchage. Pour se déplacer, il saute dans son sac de couchage, il fait plein de bruit, il doit réveiller tous les voisins. Et pour prendre une douche chaude, j'imagine, même si on a l'impression qu'il se prend une douche froide, en se branlant sous la douche en même temps, et avec le savon. Et ensuite, pour se rendre compte qu'après, en sortant de sa douche, il veut retourner retrouver ses affaires qui ont été volées. Donc, il n'a plus rien. Donc, il sort de chez lui, il court partout, dans l'immeuble, il tape partout aux tables, n'importe quoi, aux portes, personne lui ouvre, etc. Pour qu'après, il se mette dans la baignoire, qu'il essaye de se réchauffer. Il n'y a plus d'eau, bien sûr, il n'y a plus d'eau, parce qu'il a utilisé toute l'eau, hein, parce que c'est un truc.
Mais il ferme pas les fenêtres.
Il ferme pas les fenêtres. Les fenêtres sont toujours ouvertes, bien sûr.
Il a froid.
Et donc, et le matin, deux petits Français ouvrent leur porte. Oh, mais tu n'as pas peur de sortir? Attends, pour aller voir ce qui se passe. Oh là. Et ils trouvent ce garçon nu dans la baignoire. Et bien sûr, le premier truc que tu fais, c'est que tu le ramènes dans ton lit pour le réchauffer. Et voilà. Et ça, c'est la scène de. C'est la scène du truc. Et bien sûr, après, une grande amitié naît entre ces gens parce qu'ils lui donnent un iPhone, des fringues, du fric. Et voilà. Parce que. Et donc ça c'est le résumé du truc.
Je te trouve bien indulgente parce que quelque part quand tu le résumes, on a l'impression que ça raconte, tu sais, quand tu dis une grande amitié naît, mais en fait, une fois de plus, c'est une accumulation absurde de scènes qui n'ont pas de sens, qui nous font supposer qu'il continue à voir ces gens, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne comprend pas la chronologie, ça ne veut rien dire et il passe son temps à dire des conneries.
Ouais, moi j'aurais vachement préféré voir le film que raconte Marine en fait, parce que ça m'a l'air presque fun. Les faits qu'elle décrit sont tout à fait véridiques par rapport au film, mais la façon dont tu le racontes est plus intéressante que ce que j'ai vu à l'écran. Merci Marine. Tu donnes du sens plus qu'il n'y en a.
Je les ai dit en moins d'une minute, donc, et ça a duré 15-20 minutes. 15 ouais. minutes.
Tout à fait. Bon, bah, moi, en fait, hier, je parlais de blasphème pour la série inspirée de M. le Maudit. Là, le mot qui m'est venu, c'est insulte. Je trouve que c'est une insulte faite
à nous autres festivaliers.
Non pas qu'aux festivaliers, parce que ce serait prétentieux de dire ça. C'est une insulte faite aux spectateurs en général et aux gens qui vont voir ce film en salle. Et c'est une insulte faite aux gens qui ont participé à ce film aussi, quand même, de les mettre dans cette position-là.
C'est une insulte aux festivaliers de la part de la sélection, en fait.
Oui, on peut ajouter que c'est aussi une insulte de la part des sélectionneurs. Et en même temps, je me dis, mais vu ce qu'on a vu ces derniers jours, quels sont les films qu'ils ont bien pu voir, est-ce qu'ils ont bien pu subir, pour que ce qu'ils aient estimé être le plus montrable pour cette compétition, ce soit les films qu'on a vus ces derniers jours. Parce qu'on a quand même eu deux, trois moments d'épiphanie depuis le début de la compétition, mais pour le reste, il y a quand même pas mal de souffrance. Donc je n'ose imaginer ce qui leur est arrivé. On en discutait un peu ce matin avec des voisins de la radio suisse dans la grande salle du Berlinale Palast. Pardon ?
Luxembourg.
Luxembourgeois, pardon. Avec des voisins luxembourgeois. Et on parlait de la particularité des lignes éditoriales qu'on pouvait identifier d'un festival à l'autre. Et là, moi, je disais, j'avais vraiment l'impression de voir des tics, en fait. Aussi bien on voit des clichés dans les films de présentation, et l'ensemble de cette programmation est un cliché elle-même. On remplit des cases de clichés, de types de films de festivals différents. Donc en même temps, c'est très édifiant. C'est très édifiant comme expérience. Faut pas la vivre trop souvent, mais ça, je trouve que c'est une expérience malgré tout très instructive, même pour les films qui nous ont déplu, qui nous ont fait du mal, qui nous ont énervés, qui nous ont frustrés. Voilà, l'expérience en elle-même sur l'ensemble de la Berlinale, pour moi, est intéressante. Donc je reviens au film. C'est juste complètement délié. Là encore une fois, on a un film où il y avait vraiment un sujet, quoi, avec ce personnage de réfugié, donc, qui est un peu un sujet récurrent du cinéma français, la figure du réfugié, et une espèce de recherche d'étrangeté, d'absurde, qui flirterait potentiellement avec le théâtre, et un truc un petit peu pop parfois dans les costumes, et d'aborder des questions à la fois très cinéma français de triangulaire amoureuse avec des questions politiques, mais mais tout ça ne prend pas du tout, jamais, et que c'est complètement bancal, et la plupart du temps ça paraît juste complètement ridicule. Et même là je pense que c'est trop d'honneur que je fais au film en essayant de lui donner autant de sens que ça, mais pour moi ça a été vraiment une souffrance du début à la fin, et au bout de 20 minutes j'avais envie de partir, je suis pas partie parce que je suis malade et que j'en pouvais plus.
Je t'ai vu d'ailleurs à un moment donné que
Je voulais juste dire que Marine, la tête de Marine quand Carole disait oui, c'est quand même une expérience humaine, instructive et tout, la tête de Marine aurait été vraiment méritée d'être filmée à ce moment-là. Tu crois qu'elle va du film, pas des festivals.
Et puis je lui dis, ah oui, non, c'est bon, d'accord, ça va.
Mais t'as raté le... Moi, je me sentis doublement insultée en tant que française et en tant que juive. Alors, ok, pas juive pratiquante et pas juive religieuse, mais malgré tout, c'est mon identité. Malgré tout, le trauma de la Shoah, je le porte en moi. Et Dieu sait si, en vivant en Allemagne, j'en ai fortement conscience. Pas justement parce que je me sens mal ici, mais justement parce que, ben voilà, il y a un retournement historique assez magistral, hein, d'imaginer ce qui se passait ici il y a 80 ans et ce qui se passe, et le fait que je suis tellement heureuse ici aujourd'hui, enfin on est dans quelque chose assez fascinant qu'on peut pas oublier. Et je pense aussi à toute la façon dont j'ai été construite contre l'Allemagne quand j'étais gamine, sans vraiment comprendre ce que c'était que l'Allemagne, de façon par facilité. Et voilà, c'est des sujets compliqués, c'est des sujets délicats, et il y a vraiment des scènes ultra problématiques dans ce film. Sur la violence religieuse, avec un mec issu d'Israël qui débarque et qui a envie de mettre sa kippa et de dire qu'il est juif aux gens dans le métro en leur hurlant dessus, surtout une personne qui a l'air d'origine vaguement arabe, musulmane, on sait pas trop, et le fait que ce ne soit absolument pas commenté, que ça n'ait aucune... il n'y a pas de commentaire dessus, quoi. Alors après il pète un câble et il sort de son job à l'ambassade d'Israël en disant passer la frontière, donc j'imagine que ça veut peut-être dire quelque chose, mais en même temps j'en sais rien, et je suis désolée, mais vu la gravité de ce qui se passe, mais vu la gravité de ces sujets en général, et vu la pourriture de l'ambiance qu'il y a en Israël, si t'as un truc à dire, dis-le, quoi, merde. Il y a un auteur de série, un auteur d'origine arabe qui a écrit une série il y a des années en Israël qui s'appelait Arab Labor, et qui a réécrit une nouvelle série il y a quelques années qui était à Salemania il y a 2 ans, qui était sur sa vie, donc sur l'histoire d'un mec arabe qui est auteur d'une série à succès, d'une sitcom à succès en Israël, et qui est du coup bourgeois, mais qui est entouré de... C'est un peu comme Blackish, c'est-à-dire qu'il est entouré de... Il est dans des quartiers où il n'y a que des juifs, ou quand il y a des gens qui viennent faire les travaux chez lui, c'est des arabes, parce que c'est des gens qui font des travaux de manutention, enfin il souffre de faire partie identitairement d'une minorité, mais d'avoir le privilège des autres. Et donc, c'est des comédies, hein, télé, 30 minutes les épisodes. Le niveau de réflexion et de mise en perspective sur l'identité juive, sur l'identité israélienne en deçà d'être juif, justement quand t'es pas juif, sur toutes les squelettes, tous les trucs dont on parle pas, était tellement fort. C'est un truc qui passe à la télé. On avait un truc sur les séries israéliennes hier à la Berlinale série. Bon, j'avais pas le temps d'y aller parce qu'il y a False Flag qui passe. C'est-à-dire, quand tu penses à tout ce que ces trucs-là font et disent. Et l'autre, il passe. Alors c'est mieux parce que t'as fait au bout de 20 minutes le signe de la branlette, Carole.
Oui, j'ai insulté les personnages aussi pendant le film. J'ai traité ces personnages de connards à un moment donné parce que c'était juste ridicule et pathétique ce qui se passait à l'écran. Mais je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Il y a vraiment un truc en fait dans ce film. C'est un film qui aborde des sujets graves, importants, urgents, et qui ne les traite pas. Et qui les ridiculise. Et c'est pour ça qu'il y a plein de scènes en fait qui sont insupportables. Et qu'on aborde on saupoudre plein d'éléments qui devraient être importants pour en faire une espèce de truc carnavalesque avec des personnages qui sont complètement inconsistants, et puis cette recherche de on va parler de façon complètement déliée, on va prendre des poses irréalistes, on fait quelque chose d'irréaliste et de distancié en permanence. Ben non, si t'as envie d'aborder ce sujet là l'histoire de ce personnage qui arrive à Paris, qui est dans une détresse et en rupture avec son pays, dans un pays où il se passe des choses si complexes, tu peux pas faire ça, tu peux pas être dans l'évitement permanent. J'en ai marre de cet évitement en fait.
Ou alors tu fais de l'évitement un vrai sujet et tu parles d'autre chose et tu montres qu'il est en train de refuser quelque chose. L'idée, c'est pas d'être hyper expliqué. négatif. C'est...
Tu parles de pourquoi il est si mutique, de pourquoi il veut vraiment plus parler. Dans ce cas-là, il parle pas du tout. Mais il y a un truc qui est intéressant au départ, cette façon dont ce type est fasciné par le fait de maîtriser la langue française, cet amour des mots. En plus, là, tu te dis, ah, il titille un truc très français. Les Français aiment bien, justement, des films qui parlent de la langue française, qui parlent de l'importance de leur culture, etc. Mais il est juste, là, justement, en train de dire... C'est très manipulateur, en fait, je trouve aussi ce film-là. Je vous donne un sucre avec ce type qui va lire son Larousse. Alors ça, ça a énervé Yaël, parce que Yaël n'aime pas du tout cette
de nos jours, les Robert sont assez pourris aussi. J'ai en vain essayé de chercher un nouveau dictionnaire que je pouvais m'acheter. Le petit Robert des années 80 reste meilleur que les Robert qui existent aujourd'hui dans le commerce. Mais les Larousse, c'est juste un scandale. Et si vous ne me croyez pas, allez dans une bibliothèque ou dans une librairie même et ouvrez les différents dictionnaires et regardez comment ils sont construits.
Et il a un Robert, il a un petit Robert dans
ce... Non, c'est un Larousse.
Ah, ok.
Bon voilà, donc ça c'était la parenthèse sur est-ce que vous êtes Tim Larousse ou Tim Petit Robert?
Oui, je suis Tim rien du tout. Hein,
et donc le truc c'est que ce film est manipulateur parce qu'il va sous-produire plein d'éléments pour essayer justement de séduire un public français ou francophile. Le rapport à la langue française avec ce personnage qui veut apprendre plein de mots, qui apprend plein de synonymes, d'où le titre, qui ne veut parler qu'en français, qui déclame des histoires en français de façon très théâtrale. Le côté très parisien, parisianiste du film. En même temps, des moments très théâtraux, très irréalistes. Un côté un peu une espèce de... des scènes d'intérieur à la UNESCO, on va dire, grossièrement. Alors, je me permets un peu des parallèles faciles parce que vu comme le film est grossier dans son exécution, il n'y a pas de raison. Et puis des moments qui vont se vouloir très naturalistes avec une caméra qui virevolte dans la rue. Donc on essaie un peu de bouffer à tous les râteliers en fait. Un espèce de patchwork, le type ça fait un moment qu'il fréquente la France. Alors tout ce que j'ai identifié du cinéma français, je vous mets dans un film. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être qu'il veut nous dire que notre cinéma c'est de la merde, je sais pas.
Mais dans ce cas-là, réussi.
Mais dans ce cas-là, qu'il le fasse bien. Paris réussi, mais qu'il le fasse bien. Il manque un niveau de méta-cinéma dans ce cas-là pour que ça passe vraiment quoi.
Non mais en général, voilà, après il y a une déshumanisation de tous les personnages. Et c'est rigolo parce qu'après avoir critiqué un certain nombre de films pour ne pas avoir d'émotions humaines, suite ce matin à mimiquer des émotions, alors qu'on n'en ressentait jamais de réel parce que c'était trop facile, leur amour était trop simple, leur détresse était trop facile, tout était trop simple en fait, trop primaire dans le premier film. Et dans le deuxième film, il y avait carrément zéro émotion. Et avec quand même un personnage féminin hyper problématique, à peine traité, à peine montré, mais qui arrive quand même à être montré à poil à un moment, parce qu'il faut pas déconner. Remarque, je suis pas sûre que tu vois ses seins à elle. Est-ce que c'est pas un des seuls films où on n'a pas vu les seins de Nana?
Elle a un soutien-gorge.
Lui, on voit sa bite tout le temps et clairement, elle n'est pas au repos, je le dis ça, mais clairement, il n'avait pas envie qu'on la filme comme ça, parce que, comme dirait un ami qui a bossé dans le cinéma, il a des demi-molles pendant l'intégrale du film. Et on le voit genre 4-5 fois quand même. Et ça n'a aucun sens. Mais je disais, en regardant ce truc-là, et la façon dont ce personnage féminin était sous-employé, et en gros, n'était employé que pour parler du fait qu'elle baise et pour la montrer baiser à un moment, où elle joue du hautbois aussi, c'est le seul truc qu'elle fait. Et je disais, en fait, les femmes, des fois, c'est un peu des canaries dans la mine. Et donc, en fait, ce n'est pas une expression en français, c'est une expression qu'on utilise beaucoup en anglais, mais c'est pour le fait que dans une mine, il y avait tendance à emmener des canaries, parce que les canaries réagissaient plus vite au dioxyde de carbone et donc se faisaient. Mourait plus rapidement que les humains, ce qui veut dire quand le canari arrêtait de chanter, on savait qu'il fallait sortir de la mine. Et ben, quand une nana commence à être sous-traitée ou maltraitée, généralement, j'ai espéré en fait pendant les 20 premières minutes que ce soit un film qui parle d'homosexualité masculine et qui a une histoire d'amour entre lui et l'autre, vu comment ils se regardaient. Du coup, je me suis dit que la nana soit sous-traitée, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, you fucking wish. Et c'est comme si le film avait besoin de le prouver au bout d'une heure, ils leur font baiser la meuf juste pour montrer non. Il est hétérosexuel.
C'est clair que moi, depuis le début, je pensais qu'il était homo, parce que la façon dont il le montre, la façon dont déjà il montre son corps, etc. Tu vois, genre. À chaque fois qu'il rencontre un mec, que ce soit mec de boulot, etc., la façon, son amitié bizarre avec le fou là, celui qui crie, qui chante sur tout le monde et qui dit qu'il est juif, qui vient d'Israël à tout le monde pour voir comment ils réagissent. Creep. Et il le regarde toujours de près, ils sont toujours super proches, t'as l'impression qu'ils vont s'emballer quoi dans les deux secondes qui suivent quoi.
Malheureusement, non.
Mais je pense que c'est complètement voulu parce que le film joue sur l'ambiguïté sexuelle. Joue sur l'ambiguïté parce que c'est fancy, c'est classe de jouer sur l'ambiguïté, le côté un peu fluidité, on ne sait pas où ça va aller. Peut-être que ça va être un plan à trois, etc. Ça aussi, c'est des lieux communs. C'est des lieux communs français actuels.
Mais t'as un manteau de fille. C'est un manteau de fille, en fait. Et en gros,
C'est sûr que c'est un manteau de fille.
Ouais, c'est un manteau de fille à la base. Ouais.
Marine a travaillé dans la mode.
C'est Émilie Large. Ouais, c'est les coupes larges. Et c'est un manteau de fille. Et une couleur quand même assez. Je dirais pas gay, mais bon. Enfin, elle est gay dans le sens happy. Hein, pas dans le sens gay, machin. Mais.
C'est très petit mec parisien quand même. Hein.
Oui, oui, mais bon, t'as vu la taille du truc, c'est pas pour C'est pas l'autre qui aurait porté ça en fait. C'est une taille grande, large. L'autre, il aurait pas porté ça. C'était la moitié de lui, donc. Il aurait de la ridicule dedans, alors que elle, un truc large comme ça, c'est exactement ce que tu portes comme une nana.
Après, je pense que t'as raison, mais je suis pas sûre qu'ils y aient pensé au niveau des costumes. Et oui, mais après, il y a aussi quelque chose sur le fait que moi, je me suis dit que son refus de son pays et son trauma et tout, ça pouvait être ça aussi. Tu vois, s'il était homosexuel, ça a pu poser un problème.
Mais là, il y avait un sujet, si c'était ça. Seulement qu'on n'arrive jamais sur ce terrain-là. Et même le fait que le mec soit paumé, soit en colère et fasse exploser sa colère, à un moment donné, il va voir la nana à un concert et pendant, dans les coulisses, il se met à hurler, il se met à gueuler. Mais la façon dont c'est construit, c'est hyper... C'est hyper bancal, quoi. C'est dommage parce qu'il y avait plein de moments où il y avait des scènes qui étaient intéressantes. Et je suis pas en train de dire que j'ai une solution sur comment faire son film. J'en ai pas. C'est pas mon métier. Voilà. Mais
même si c'était ton métier, c'est pas ton problème de s'occuper de son film à lui. Il fait tes films à toi.
Vu que c'est pas mon projet. Mais c'est juste un ensemble de clichés. Et ce personnage, au départ, il est super intéressant. Même le fait qu'on le voit beaucoup nu, ça pouvait être intéressant dans ce que ça montre de ce mec qui est hyper musclé, qui est une espèce d'incarnation de la force, une espèce de représentation presque masculiniste, mais en même temps qui est complètement paumé, meurtri. Ses parents sont inquiets pour lui. Il y a ce moment qui est beau où son père vient à Paris. Son père vient à Paris, il fuit son père, mais ça, et on se dit qu'il y a quelque chose de la fragilité dans ce mec qui paraît être la force, qui dit avoir été une arme de guerre lui-même. Donc il y a un truc hyper fort qui est complètement désamorcé. Et j'ai l'impression qu'on essaie de me montrer un truc qui serait une espèce de parcours à la Candide, quoi. Un truc assez voltairien. Mais ça ne tient pas la route.
En plus, je crois que tu donnes trop de crédit à ce film, même en disant ça.
Oui, mais on n'est pas.
En réalité, je vois. Enfin, moi, j'ai effectivement. Et pour le coup, en fait, c'est là que tu vois.
Je dis ça parce que je veux pas juste dire, ouais, c'est de la merde, c'était tout pourri, tu vois.
Bah oui, sauf qu'en réalité. Isn't that what we should say? Est-ce que c'est pas exactement ce qu'on devrait dire? Est-ce que c'est pas. Est-ce que. Vu le temps qu'on ne passe pas à réfléchir, alors nous aussi, mais. En fait, il y a un truc qui me révolte là dans ce festival, c'est qu'on refuse de passer du temps à analyser, à réfléchir et à réellement considérer les qualités de tout ce qui fait partie du cinéma de divertissement. Et par contre, tu vois, quand je commence à dire « Ah, c'est vachement subtil dans cette comédie, comme ils ont dit ça ou ça. Ah, ce film de super-héros, c'est intéressant comment ils traitent. Ah, Black Panther, Black Panther, à la limite, on l'a fait, mais tu vois, il y en a plein d'autres avant. » Et à chaque fois on dit oh mais non mais c'est bon c'est que truc, et alors qu'un truc qui est vide de sens, vide de fond, vide de truc, on dit des choses, on essaye de trouver des choses et on passe du temps en lisant les critiques, c'est à ça que je pensais. Comment est-ce que les gens peuvent passer tant de temps à parler de ces films comme si c'était des œuvres complètes et abouties, alors que de fait il manque des éléments essentiels, et c'est en réalité hallucinant que ce soit devenu un film.
Bon, quoi qu'il en soit, même si, puisqu'on a passé 2 heures à le voir, on se dit que forcément, enfin moi naturellement, tu vois, j'ai envie d'essayer de comprendre ce que j'ai vu et pas juste rester sur ma première impression de putain, je me suis fait chier, ça m'a énervé, et les 15 milliards d'idées qui sont passées dans la tête après, donc ouais. J'essaie de comprendre, mais je vais boucler la boucle en revenant à la première chose qui est ma première impression qui était ce film est une insulte à ses spectateurs et ce film est une insulte de programmation. Voilà.
Effectivement, à ses acteurs aussi, dont l'un, il s'avère, je connaissais. C'était un peu le moment fun du film. Avant, j'ai fait « Oh, Christophe !» Donc, et qui jouait d'ailleurs très bien dans le film. Mais je me suis dit, ça doit être compliqué aussi d'avoir joué dans un film comme ça et d'avoir les retours plus ou moins positifs des gens, alors que c'est ton travail n'a rien à voir avec le fait que ce soit un film. Enfin, tu vois. Mais bon, je
trouve qu'il est effectivement plus crédible que les autres. Il parlait tout à fait d'une façon normale.
Alors qu'il avait un rôle très extrême.
Voilà, mais il parlait normalement. Les autres, c'est toujours genre, ils ont toujours cette pause quand ils parlent. Mais oui, ça donne un côté nonchalant.
Si le matin, nous allions à la rivière.
Non, mais...
Peut-être serait-ce le moment de se baigner. Non ?
De la branlette.
Oh, il fait beau dehors. Allons à la rivière demain.
Moi, je pense que comme hier, il faut rentrer regarder Buffy.
On va faire ça. Du coup, désolée hein, de vous dire tant de choses terribles et d'être alarmiste. On n'est pas alarmiste, c'est parce qu'on croit en la beauté, la force et l'intelligence du cinéma potentiel. Et c'est pour ça qu'on est aussi exigeante. Et on n'est pas si exigeante que ça, franchement. Là, on a vraiment, moi aussi, hein, j'ai essayé pendant tout le film de me dire qu'est-ce qu'il a essayé de dire. Bon, après, j'ai tricoté. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Il nous reste un film de compétition qu'on va voir demain. Quoi qu'il arrive demain, on fera aussi on verra si on a le code, faire un petit bilan. On fera, je pense, une dernière conversation une fois qu'on aura eu le palmarès. Je l'espère ne sera pas juste une succession de cris énervés. J'espère que ce sera un moment joyeux, voire mitigé, mais en tout cas pas juste voilà.
Énervé, ouais.
Énervé parce que créer des podcasts pour juste dire. Qui va pas, c'est pas constructif. Quoi qu'il en soit, les écrans terribles continueront après la Berlinale à faire des podcasts qui vont parler de plein de choses merveilleuses et fantastiques dans le monde du cinéma, des séries et de la pop culture. N'est-ce pas, Carole ?
Tout à fait. Et vous retrouverez tous ces podcasts sur www.lesecransterribles.com. Vous êtes sûrement passé si vous écoutez ce numéro. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux @écransterribles au pluriel sur Instagram, Les Écrans Terribles sur Facebook. Et vous nous retrouvez aussi, nous trois, sur nos réseaux sociaux personnels.
Alors moi, c'est YaelKa sur Instagram, mais un seul A sur Twitter.
Moi, c'est Écureuil Berlinoise sur Instagram et sur Twitter, Morskaya, MorskaA.
Et moi, sur Instagram, je suis Elinor_Ronil, c'est Elinor à l'envers. Et pour l'instant, mon compte n'est pas alimenté, puisque comme certains le savent, si vous avez écouté les précédents numéros de ce podcast, j'ai perdu mon téléphone dans les transports en commun. Donc je suis hyper frustrée au niveau Instagram. Mais c'est pas la moindre des frustrations cette semaine.
Mais on lui prête nos téléphones de temps en temps. Hein, je tiens à le dire.
Pour qu'elle s'amuse à faire des stories, d'ailleurs, tu n'as pas
fait. Elle le fait sur écran terrible, plutôt, pour alimenter écran terrible. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Parlez de nous, partagez-nous, dites-nous, faites-nous des coucous, faites-nous des bisous, faites-nous ce que vous voulez. Et
vite fait, faites ce que vous voulez quand même. On va se calmer là.
Je voulais favoriser la liberté d'expression, mais tu as raison, Carole. Restons sages, restons dans le consentement mutuel, s'il vous plaît. En tout cas, ça nous fait très plaisir que vous nous écoutiez. Voilà. Et c'était donc Les Écrans Terribles chez les ours, épisode 7.
Tchuss.
Tchuss. Tchuss.